Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silveiro pour cette édition d'Escale, consacrée au séisme en Haïti il y a 10 ans. Nous revenons sur les moments qui ont suivi ce tremblement de terre dévastateur qui a secoué Haïti le 12 janvier 2010, tuant plus de 200 000 personnes, en blessant 300 000 autres et laissant 1,5 million de personnes sans abri. Michèle Montas, ancienne porte-parole de l'ONU, était rentrée chez elle en Haïti au moment de ce séisme. Aujourd'hui, 10 ans après, elle témoigne du chaos et de la solidarité qui ont marqué les premiers moments après que le goudou-goudou ait frappé.
J'étais sur place à Port-au-Prince parce que j'étais rentrée une semaine avant. J'étais théoriquement au traité des Nations Unies. J'ai quitté mon poste aux Nations Unies à la fin de 2009 et j'étais chez moi. Et vers 16h, tout a commencé à bouger, tout a commencé à être secoué. Et j'étais chez moi, les murs se fissuraient. Nous étions 3 dans la maison à nous précipiter dehors avec l'impression que le sol était un gigantesque boa qui bougeait. J'ai un arbre devant la maison qui était penché totalement et qui se redressait. Il y avait un étrange silence. Pas d'oiseaux, pas de chiens. Et puis soudainement, les chiens se sont mis à hurler à la mort. Et je me suis dit que c'était un tremblement de terre, évidemment, bien que Haïti n'avait pas connu de tremblement de terre avant ça en un siècle. Mais je n'étais pas du tout rendu compte de l'étendue de cet énorme tremblement de terre que nous avons appelé goudou-goudou en Haïti à cause de ce que ça avait créé comme émotion. Je ne suis pas sortie dans la rue, je suis restée à la maison et j'ai eu des gens qui arrivaient, couverts de poussière. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste ma maison, ce n'était pas juste mon quartier, c'était la ville, Pétionville, que j'habitais, qui était à peut-être 30 minutes de Port-au-Prince. Et au fur et à mesure, on entendait les gens hurlaient et priaient, parce que pour eux, c'était la fin du monde. Ce soir-là, je n'ai pas dormi, nous étions tous dans la rue.
Vous n'êtes pas restée à la maison, vous n'êtes pas rentrée dans
la
maison?
Non, parce qu'on craignait, parce qu'il y avait aussi d'autres secousses qui ont succédé. Chaque 2 heures, chaque 4 heures, il y avait une nouvelle secousse. Et certaines ont atteint 5 sur l'échelle de Richter. J'ai pas de nouvelles des Nations Unies, de mes anciens collègues des Nations Unies. J'attendais à dîner ce soir-là, Luis Carlos da Costa et Eddie Anabi, qui étaient les deux responsables de la MINUSTAH en Haïti. Quand je ne les ai pas vus arriver, je me suis dit, ils ont eu un contretemps, il y a eu des problèmes. Je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait une mission tout entière. 102 personnes dans un immeuble, ils s'étaient effondrés sur eux. C'était l'hôtel Christopher qui s'était effondré avec le personnel des Nations Unies. C'est seulement le lendemain que j'ai su. Le lendemain, je suis descendue à pied, j'ai vu les corps. Des corps échelonnés le long de la route, couverts d'un drap blanc.
Tout le long de la route?
Vers Port-au-Prince. Et c'était les corps de gens qu'on tirait des bidonvilles. Et par respect, des gens qui n'avaient pas grand-chose prenaient un drap propre pour recouvrir les corps. C'était ce qui nous restait de dignité, de respect. Mais alors, au fur et à mesure que je descendais vers Port-au-Prince, je réalisais que c'était énorme. Des gens dans les rues, en train de hurler, de pleurer, de crier, de prier. Et 3-4 jours comme ça, à essayer d'aider les gens. Il y a une solidarité haïtienne énorme et une solidarité de la MINUSTAH qui était l'organisme sur place qui avait une structure. Nous avions perdu toute l'infrastructure civile de la mission, mais tout de suite, la mission militaire a réagi pour essayer de retirer les corps. On a trouvé des survivants. J'étais devant l'hôtel Montana à attendre qu'on sorte des corps. Et le colonel responsable des forces de l'ONU qui était en train d'essayer de trouver des survivants, sa propre épouse se trouvait sous les décombres. Et il n'y avait pas d'ordre spécifique pour chercher sa femme. C'était trouver des survivants à n'importe quel prix. Et ça a été un effort qui a duré des jours et des nuits. C'était d'abord ça, les survivants. Puis aussi, sortir des décombres des gens qui avaient perdu une jambe, qui avaient perdu un bras. Il y a eu des centaines et des centaines et des milliers de blessés. Donc il y avait là les équipes de secours qui commençaient à arriver 3 jours après. Et 4 ou 5 jours après, on m'a demandé de rejoindre la MINUSTAH. Et j'ai repris service pour les Nations Unies tout de suite.
La MINUSTAH qui était au cœur de la réponse finalement.
Au cœur de la réponse dès le début. La MINUSTAH a pu remplir une fonction énorme d'aide immédiate aux victimes et de coordination de l'aide. Il faut dire que l'État haïtien était décimé. Tous les gens responsables de l'État, du chef de l'État, le palais national s'était effondré, sa maison personnelle s'était effondrée, tous les bâtiments administratifs du pays s'étaient effondrés. Donc le gouvernement n'avait pas les moyens de réagir. Et c'est grâce à l'ONU qu'il y a eu des vies qui ont été sauvées. À la MINUSTAH même, il y avait tout un camp de gens qui avaient été sauvés et qui devaient être évacués pour être traités, parce que le désastre a entraîné aussi la perte d'une cinquantaine d'hôpitaux et de centres de santé. Et ça a frappé le centre administratif du pays, la capitale. Alors que si le séisme avait frappé ailleurs, ça aurait été possible qu'il y ait une réponse haïtienne plus significative. Mais là, vraiment, tout a reposé sur l'ONU.
Les
États-Unis, absolument. Les États-Unis ont envoyé des troupes avec de l'aide. Le Canada a envoyé des troupes avec de l'aide. Le Venezuela a envoyé des troupes avec de l'aide. Mais tout ça, ça arrivait. Il fallait qu'il y ait distribution. Il fallait qu'il y ait une forme de cohésion. Et c'est ce que l'ONU a assuré, alors que l'ONU essayait à peine de cicatriser ses propres blessures, puisque nous avions perdu tant de gens. Ceux qui étaient survivants
n'avaient
pas les mêmes moyens. Non, non, non. On n'osait pas demander à quelqu'un qu'on rencontrait des nouvelles de quelqu'un d'autre, de sa famille ou ses amis, parce qu'on était sûr que la réponse serait « ils sont partis ». J'avais perdu des dizaines d'amis comme ça. Arrivé à Log Base, la mission militaire, les gens étaient comme égarés sur place. Les gens s'étreignaient sans poser de questions. On ne demandait pas de nouvelles, mais on essayait d'échanger. Telle personne est sortie de l'hôtel Christopher, un bras cassé. Telle personne est sortie avec telle chose. Pas de nouvelles de telle autre. On dormait sous des tentes. C'était ça qu'on vivait. Avec aussi, les premiers jours, cette espèce de sens de l'urgence. Il y avait des camps à monter pour recueillir les gens qui étaient sans abri. Il y en avait 1 500 000 de personnes sans abri. Il fallait au moins des tentes. Les organismes d'aide de l'ONU avaient des tentes sur place en prévision de cyclones possibles. Mais personne n'avait prévu un tremblement de terre qui frapperait le centre le plus peuplé du pays, qui était Port-au-Prince. Les secours sismiques ne s'arrêtaient pas. Il y avait aussi cette odeur de la mort qui, pendant des jours, a pesé sur Port-au-Prince. Et puis, la destruction qu'on voyait partout. Il fallait nourrir tous ces gens, les loger temporairement. Tous les gens qui étaient blessés, les évacuer ou les orienter vers les centres de santé, à même la rue qui s'était constituée. En fait, on amputait des jambes dans la rue, sous des tentes. C'était ça la situation. Heureusement, la MINUSTAH avait des troupes sur place. Donc il y avait eu la possibilité de faire appel à des gens qui pouvaient escorter les convois de nourriture, malgré le fait qu'il n'y avait pas de route. Les hélicoptères jetaient de l'aide dans des endroits précis, mais il fallait sur place qu'il y ait des gens, et c'est l'ONU qui assurait ce rôle, qu'il y ait des gens pour pouvoir distribuer l'aide à des gens qui avaient faim. Même arriver à donner de l'eau à tous ces gens, c'était un défi énorme. Même quand les secours arrivaient, la distribuer n'était pas facile.
Vous évoquez une situation catastrophique, d'une ampleur inimaginable, mais aussi des élans de solidarité entre Haïtiens, aussi avec la communauté internationale. Qu'est-ce que ça fait de vivre ces deux choses qui sont tellement opposées, même si elles vont de la main quelque part ?
Regagner l'ONU à travers la MINUSTAH, ça a été important pour moi parce que j'ai eu l'impression de sortir du sentiment d'impuissance presque totale où j'étais au moment du tremblement de terre. Bon, on aidait ici et là. Ma voiture a servi à transporter des blessés pendant 3-4 jours, mais c'était tellement petit. Être avec l'ONU a permis vraiment de pouvoir aider dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Ceux qui avaient survécu de la mission civile, on voulait les rapatrier. Ils ne voulaient pas, ils voulaient rester. Ils avaient perdu des gens proches, ils ne voulaient pas partir.
Ils voulaient être utiles.
Ils voulaient être utiles, parce que c'était aussi une façon d'oublier la peine, d'oublier la douleur. Pas d'oublier, mais de rendre justice aux gens qui étaient partis, de rendre justice à ceux qui étaient morts et d'aider les survivants.
Ça veut dire quoi d'être survivant ?
Cette attitude d'être survivant m'a habité pendant très longtemps, très très longtemps. Je me souviens d'avoir été à Los Angeles avec le secrétaire général qui lançait avec la communauté de Hollywood une réunion d'aide à Haïti parce que les acteurs, comédiens, etc. voulaient aider. Je suis arrivée à Los Angeles, je suis dans une voiture et je vois, dans ma tête, je vois s'écrouler des maisons. Ce traumatisme, il a fallu des mois pour que ça s'en aille. Ou on est réveillé au beau milieu de la nuit, d'abord on ne dort pas. On est réveillé au beau milieu de la nuit avec ce sentiment qu'il y a une autre catastrophe qui va arriver. Et ça, c'est des choses qu'on n'oublie jamais.
Est-ce que vous avez tiré une leçon quelconque de cette expérience d'avoir survécu ce séisme ?
Cette expérience m'a appris beaucoup de choses. D'abord sur mon pays, Haïti, sur l'ONU. Il y a eu certainement des erreurs commises au moment de cette aide. C'était inévitable. Et il y a eu aussi des erreurs énormes qui ont été commises au moment de la reconstruction, qui est arrivée des mois après. Au moment de l'urgence, bon, évidemment, on improvisait. Je me souviens de visiter un camp qui avait été organisé par OCHA, où les tentes étaient alignées pour recueillir des familles qui étaient sans logement. Et ma première réaction, je leur ai dit, mais pourquoi ne pas mettre les tentes en rond? Ça respecterait une tradition haïtienne, qui est la tradition du lacou, du village. On se met ensemble en communauté. Et la personne qui était responsable, il était de l'ONU, mais il était philippin, il m'a dit « c'est pas ainsi qu'on a fait à Aceh ». Donc c'était difficile dans l'urgence d'adapter l'aide aux besoins des gens. Mais tout était urgent, tout était urgent. L'eau, nous allons visiter un camp et Médecins sans frontières nous disent « mais tous les enfants se grattent, il y a un problème avec l'eau ». Et je dis au responsable du camp, mais pourquoi ne pas simplement mettre du chlore dans l'eau et ça va désinfecter l'eau? Une chose très simple qui aurait coûté quoi, rien. Et il était ébahi, il n'y avait jamais pensé. C'est dire que c'est vrai que même l'aide d'urgence parfois a été difficile. Arriver à déterminer que pour distribuer l'aide, il fallait demander aux femmes de venir prendre l'aide. C'était les femmes qui étaient les chefs de famille, c'était la façon d'obtenir que l'aide arrive aux familles et ne soit pas vendue à d'autres gens dans la rue qui en avaient aussi besoin. Donc, développer ces mécanismes a pris quelques semaines avant qu'on puisse savoir quoi faire. Et c'était un apprentissage sur le terrain difficile. Et la reconstruction, il y a eu aussi des erreurs énormes qui se répercutent jusqu'à aujourd'hui. La grande majorité de cette aide énorme qui s'est déversée sur Haïti, au moment de la reconstruction, ça n'a pas été aux Haïtiens. Beaucoup de l'aide a été à l'aide des ONG, même l'aide de la communauté internationale.
Vous voulez dire pour leur infrastructure ou pour...
L'aide qui est arrivée, oui, pour les infrastructures, a, dans une certaine mesure, été donnée à des firmes du pays qui donnaient l'aide, sont donc retournées dans le pays donateur d'aide. Il y a très peu qui est passé par les institutions haïtiennes. Donc, si vous voulez, les Haïtiens étaient considérés davantage comme des assistés et des victimes, pas comme partie prenante de leur propre sauvetage. Alors qu'au début, c'était les Haïtiens qui étaient debout et qui voulaient faire et qui aidaient d'autres Haïtiens. Donc, il y a eu cette erreur de ne pas suffisamment impliquer les Haïtiens, c'était les voir comme victimes. La reconstruction, en fait, a contribué, dans une certaine mesure, à augmenter les inégalités. L'aide a construit des hôtels, des bâtiments administratifs, des choses qui allaient à l'État lui-même. Mais les gens qui avaient perdu leur logement, des centaines de milliers, ils n'ont pas reçu l'aide qu'ils auraient dû recevoir sur le long terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu possible pour eux de sortir de cette pauvreté-là, où ils étaient déjà avant le tremblement de terre. Et dans une certaine mesure...
C'est une occasion qui a été loupée.
Qui a été loupée, pas de rectifier les inégalités. Les inégalités dans la Caraïbe et l'Amérique latine marquent toute la région au point de vue économique et social. Mais c'était une opportunité de pouvoir aider les plus pauvres et de les aider d'une autre façon. Mais je dois dire que l'urgence a commandé beaucoup de choses et ça, on ne peut pas nier toute cette aide qui a aidé les gens à survivre.
Est-ce qu'Haïti et les Haïtiens sont aujourd'hui mieux préparés ou dans une meilleure position pour affronter si une telle catastrophe devait advenir?
Eh bien, il y a eu des leçons qui ont été tirées du tremblement de terre, qui ont servi. Il y avait aussi un renforcement de la direction de la protection civile, qui est l'organisme qui, en Haïti, s'occupe de prévention des désastres. Et ils étaient mieux préparés qu'ils ne l'étaient au moment du tremblement de terre. Donc, il y a eu quelque chose aussi qui permet de lancer l'alerte. Et il y a eu, après, des réponses, que ce soit à l'épidémie de choléra, en octobre 2010. Ensuite, un cyclone qui s'appelait Thomas. Il y a eu Matthew. Et en octobre 2018, la terre a de nouveau tremblé en Haïti et il y a eu 12 morts. J'ai dit 12 morts et le fait qu'il y a eu 12 morts et pas davantage permet de comprendre qu'il y a eu quand même un effort qui a été fait au niveau de la préparation, au niveau de la prévention et au niveau des capacités locales à faire face à ce type de désastre. Il y a eu aussi des formations qui ont été faites d'ingénieurs aux normes antisismiques qui permettent maintenant d'avoir une infrastructure dans le nord du pays, au Cap Haïtien en particulier, où on attend d'un moment à d'autre un autre tremblement de terre. Elle a agi à Porto Rico récemment et c'est la même faille qui nous traverse. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ont été plus ou moins abandonnés en cours de route dans la question des logements se sont mis à construire eux-mêmes leurs propres logements comme ils pouvaient, ne respectant pas de règles sismiques du tout. Et ils ont reconstruit n'importe comment. Et Port-au-Prince est une ville extrêmement peuplée. Et si un tremblement de terre devait frapper Port-au-Prince aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas autant de morts, mais on en aurait beaucoup.
Et c'est ainsi que se referme cette édition d'Escale, présentée par Christina Silvero. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.